page arrachée au journal de Michel Léris, lue par Jean-Louis Trintignant.
Les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur.
1929.
Avril. Le problème actuel consiste essentiellement en la destruction des tours d'ivoire qui ne sont après tout que des prisons, la rupture de toutes les cloisons. Afin que l'amour, et même la simple communication d'un homme à un autre, deviennent enfin possibles. Deux armes pour cela, la psychanalyse et la révolution. Mais, relisant ce cahier, j'observe combien d'année en année, les notes se raréfient. N'est-ce pas un indice, moins de paresse croissante que de ralentissement, de cristallisation proche, enfin de vieillissement? Retrouver des souvenirs d'enfance notés sur un agenda médical donné par Théodore Frankel. Je les transcris. Petit guignol de métal rose. Disque de phonographe, la biche au bois. Disque de phonographe, carte postale. Premier cauchemar connu, je suis mangé par un loup. Deuxième cauchemar connu, je suis mangé par un cheval. Sexualité. Histoire du doigt dans l'œil. Première érection dans le bois de Viroflay en voyant des enfants grimper pieds nus dans des arbres. Livre. Les animaux en train de plaisir. Les animaux en pique-nique. La guerre des animaux, la guerre des ours et des lions par Rose Candide, les aventures de Saturnin Farandoule, de Robidia. J'apprends l'histoire sainte avec une petite fille nommée Agnès. Je me la rappelle vêtue d'une robe de velours gris avec ses longs cheveux blonds sur les épaules. Une autre, brune celle-là, se frotter violemment le dessus d'une des mains avec la paume de l'autre, afin que la main frottée sentît la mort. Buffalo Bill au Champ de Mars. Roman. Nick Carter. Buffalo Bill Far West. Morgan le pirate. Sous le pavillon noir. Nat Pinkerton. Sitting Bull. Édité par Eschler. Affiche de l'ambigu pour bagne d'enfant. Dans Nos loisirs, histoire d'un homme foudroyé, photo de l'arbre sous lequel il était abrité, dans son œil ou dans son front. Le film Pardonne grand-père au cinéma du Trocadéro, coup de bâton du père sur le front du prétendant, trace en creux sur le front, mariage contre gré des parents, mari bûcheron écrasé sous un tronc, coup de feu du père ou du grand-père, sur traîneau qu'il croit monté par X, mais c'est sa fille qui reçoit. Guerre russo-japonaise au musée Grévin, cadavre japonais à tempe trouée. La bonne allemande que mes frères et moi surnommions Éclair. Les romans que nous parlions et écrivions, mes frères et moi. On peut parler d'une technique poétique, technique non pas au sens classique de canon ou règle de construction, mais comparable aux techniques mystiques, ce que Karl Einstein appelait le training de l'extase. Rimbaud a résolu pour lui la question, voir la lettre où il parle d'un long dérèglement de tous les sens. Le surréalisme aurait pu s'occuper de cette question, mais ne l'a pas fait, hypnotisé qu'il était par l'écriture automatique. Vue Baron au vernissage de Kermadec. Conversation sur le malaise dans lequel nous nous trouvons. Baron parle d'une poésie dialectique qui reflèterait le mouvement de la vie, avec toutes ses contradictions. Je lui montre quelques fragments de poèmes écrits dans le tramway et au café. Il trouve cela mauvais. Il a d'ailleurs raison. Cela me trouble, arrivant juste au moment où je suis dans la disposition d'esprit que révèlent les pages qui précèdent et le fait d'avoir repris ce journal abandonné, afin de faire quelque chose à tout prix. Le matin, nous avions eu une conversation au cours de laquelle j'avais pris la décision de me mettre un peu au courant des questions ethnographiques et sociologiques. C'est un programme qui doit rester valable, le seul peut-être qui soit capable de fournir une base réelle à mon activité en même temps que de supprimer ce qu'elle a eu jusqu'à présent d'éparpillé. Toute cette journée constitue une sorte de rappel à la réalité et un nouvel avertissement quant à la méfiance qu'il convient d'avoir à l'égard du verbalisme. C'est sûrement une très mauvaise chose que de vouloir écrire coûte que coûte. Une activité détournée telle que la rédaction de ce journal vaut sans doute mieux. Ce que je ne suis pas encore arrivé à déterminer, c'est l'influence que peut avoir sur moi le fait de rencontrer des gens qui ne croient pas, ou plus, à la poésie. Il est bien évident que je suis dans une incertitude complète, prêt tantôt à ne m'occuper que d'écriture de poèmes, tantôt à rejeter cela. Toute ma conduite est décousue depuis plusieurs mois. Je ne cesse de changer de point de vue, d'humeur, de relation, etc. J'ai maintenant une véritable peur de rencontrer ceux qui ne comprennent pas la poésie, Gutermann par exemple. Et je suis tenté de faire retomber sur eux le fait que je ne fais rien. D'autre part, si je fuis ces gens-là, j'ai peur de céder à un amour-propre ridicule et de me livrer à des simagrées grotesques d'impuissants. Je voudrais faire l'expérience de rester 8 jours chez moi. Je vis dans un véritable brouillard et j'ai fait cette nuit de ces rêves érotiques qui vous démoralisent. C'est peut-être sous l'influence de cela que j'ai écrit les stupides lignes montrées à Baron. Reçu une lettre de Pierre Quin qui veut hâter son histoire de la littérature française. Essayé sans résultat de téléphoner à Picasso le matin. On dirait que cette journée a été gâchée pour moi dès cet essai de téléphone. Je me rappelle une anecdote que Carive racontait avec beaucoup d'humour. Berle, à la campagne, s'enfermait tous les jours une grande heure au moins dans sa chambre, généralement après déjeuner. Il redescendait régulièrement en grommelant « C'est diabolique, je ne peux pas écrire une ligne. » J'ai toujours très peur de jouer ce rôle. La seule technique consiste peut-être à oublier et à s'efforcer vraiment de ne rien écrire. C'est curieux comme tout a empiré depuis le voyage à Quiberon. On dirait vraiment que j'ai eu trop peu d'espoir et que le cours des choses m'en punit. Punir. Vilain mot religieux. La peinture de Kermadec ne me touche en somme pas du tout. Tous ces tableaux me restent entièrement extérieurs. Je n'ai même aucun désir d'y pénétrer. Seules les choses les plus récentes, petits nus, me présentent quelques points de contact. Du reste, je ne me soucie pas. Mes amis et moi n'avons guère plus rien à nous dire. Il faut à tout prix briser le cercle, voir d'autres gens, ne serait-ce même que 15 jours, mais au moins que pendant ces 15 jours, on espère quelque chose de nouveau. Depuis que j'ai eu 28 ans, je me sens dans un état d'extraordinaire nervosité, d'impatience fébrile. J'ai la certitude qu'il faut me dépêcher, sinon j'arriverai à la vieillesse sans avoir rien fait que de dérisoire. Je me rappelle qu'Aragon m'avait dit une nuit aux Hélices que la 29e année est très précisément la plus terrible à traverser. Je voudrais quitter Paris, mais je ne sais littéralement pas où aller. Même si je retournais à Nantes, il me semble que maintenant cela ne serait plus la même chose. Je pense au livre de Lénine intitulé « Que faire ?» À titre d'expérience, je fais le commentaire d'une phrase prise au hasard dans un livre choisi au hasard dans ma bibliothèque. Il est d'une absurdité évidente d'isoler une phrase de son contexte, et cela ne peut raisonnablement se faire que dans un but d'oracle ou de magie. Il n'est pas plus absurde de faire un résumé de ma journée. Fais l'amour. écrit à Pierre Quint pour l'histoire littéraire. Vu Kermadec gagner un match de tennis, manger 4 gâteaux, lu un peu matin et après-midi, quelques pages de divagation de Mallarmé, environ un chapitre du retour d'Amazan ou une histoire de la littérature française d'André Terrive, feuilleter les notes d'un amateur de musique de Gérard de Nerval, travailler à ce journal, songe toujours à étudier l'ethnographie pour voir si la théorie de Marx est confirmée quant à la formation de notre mentalité par ce que l'on sait ou croit savoir de la mentalité des primitifs, qui, peut-être ne le sont pas. Téléphoner à Frankel pour lui demander une consultation médicale pour Z. Regarder tous mes vieux cahiers. Dîner avec Josette et Georges Gris. Conversation sur l'histoire telle qu'on l'apprend en classe. Quelques noms de choses ou d'événements. La loi salique. La pragmatique sanction. La querelle des investitures. La défenestration de Prague, etc. Parmi les personnages attrayants, Duplex, Vasco de Gama. Un tel coup d'œil sur l'emploi d'une journée, s'il était fait scrupuleusement et répété quotidiennement, pourrait montrer l'importance relative des différentes occupations et soi-disant préoccupations. Il serait tellement établi que les choses les plus futiles ont nettement le pas sur les choses graves. Écrire un poème qui serait le reflet d'une journée. Je situe d'un mot quelques-uns de mes amis présents. Limbourg, trop détaché. Bataille, trop esthétiquement matérialiste. Baron, communiste trop peu clairvoyant. Frankel, trop sentimental. Canveller, trop dignité humaine. Jouandeau, trop mythomane. Contremaçon, rien à dire. Développer, ces critiques pourraient me conduire à définir ma propre position, par suite à l'affermir. Livre à lire, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Totem et tabou, ainsi que Psychologie collective et analyse du moi de Freud. Comme le mot concret, le mot humain est un pavillon susceptible de couvrir des marchandises très diverses. Si l'on dit « soyons humains », il faut prendre garde que cette phrase ne devienne pas quelque chose dans le genre de « soyez bons pour les animaux ». Le mot humain, comme le mot concret, est un des plus dangereux à employer, parce que, dès qu'on l'a prononcé, on est tenté de se tenir pour quitte. Je voudrais réaliser en moi une espèce de solitude. Il ne s'agit pas évidemment de solitude matérielle. Je n'ai aucune envie de jouer au penseur ou à l'ascète. Simplement, je voudrais, tout en continuant à voir ceux que j'ai l'habitude de voir, et même en en voyant d'autres, arriver à ne plus attacher une telle importance à cela, de manière à ne plus être à la merci d'un rendez-vous, ni de ne pas savoir quoi faire de moi quand il se trouve qu'un jour, je ne dois voir aucun ami. Je voudrais aussi parvenir à considérer comme égales les diverses heures de la journée, ne plus considérer que l'après-midi, il est nécessaire que je sois occupé, que je sorte le matin, l'après-midi ou le soir, c'est exactement pareil. De même, ce journal, je devrais pouvoir le rédiger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est ce sentiment d'intense solitude que j'éprouve au moment où j'écris. Je me sens seul au monde, non pas parce que tout est extérieur à moi, mais parce que tout n'existe qu'en fonction de moi, comme un rêve que j'imagine et qui ne peut toucher que moi. J'ai beaucoup plus conscience de mes membres, de tout mon corps, surtout de ma poitrine et de mon ventre. Je suis géant, comme dit Artaud, et c'est à mon sens ce qu'il a écrit à la fois de plus simple et de plus beau. Le moindre bruit m'exalte infiniment. C'est alors que je pense aux gens dans leur maison, à tout ce qui se passe dans la rue, aux crimes, au départ des bateaux. Les phénomènes naturels deviennent aussi vivants que n'importe quelle histoire humaine. Et tout cela sans orgueil, sans mégalomanie. À peine une sorte de fierté, de joie plutôt de me voir si sensible, plein de sensibilité, qui, pour un temps, force le monde à répondre à ma sommation. Je pense que cet état est assez analogue à ceux que connaissent les mystiques lorsqu'ils se fondent en Dieu. Toutefois, je suis bien sûr qu'il n'y a rien là de religieux, car ce qui prédomine, et j'en ai pleinement conscience, c'est le plaisir. Je n'ai aucunement l'impression d'être plus pur et plus détaché, mais seulement celle d'être seul. D'être seul à être. Alors que tout le reste n'est plus qu'une vague hallucination dont je fais ma pâture. Il ne s'agit pas de supprimer le monde, mais de se l'incorporer, de devenir réellement microcosme. Tout ceci n'a malheureusement de valeur que pour moi, et c'est là qu'est le dilemme. Trop souvent, cette chère exaltation n'aboutit objectivement qu'à des médiocrités, ou pire encore. Jamais je ne dirai comme Artaud que j'ai, pour me guérir du jugement des autres, toute la distance qui me sépare de moi-même. Je sais trop bien combien facilement on peut s'illusionner et jusqu'à quel inimaginable degré le moindre petit con est porté à se traiter comme un homme de génie. C'est là qu'est le danger de ces attitudes prophétiques. La grande difficulté qu'il y a à tenir un journal, c'est qu'à chaque instant on se laisse aller à la littérature. Il faudrait même ne pas se soucier de construire une phrase, ne pas faire comme quand on se regarde dans une glace. Il ne s'agit pas de peindre son portrait en pied, mais de mesurer ses forces et d'essayer d'en découvrir jusqu'aux moindres possibilités. Je pourrais faire une critique très âpre de la page qui précède, car cette page pue à plein nez la mégalomanie. Je me contente de me le signaler, mais je ne voudrais pourtant pas me coucher sur cette décourageante impression dans laquelle je m'embourbe, à mesure que j'ajoute correction sur correction. Qu'au moins, la page qui précède serve à me dégoûter d'un genre d'attitude vraiment très grotesque et très bas, assez de littérature. J'ai la sensation très nette qu'un charme s'est rompu. Seule une chose très terre-à-terre serait capable de le rétablir. C'est à partir du moment où j'écris ces mots sans orgueil et sans mégalomanie qu'orgueil et mégalomanie sont venus. À dire vrai, je les ai niés parce que je les sentais venir. Toutefois, il ne s'agit nullement de me faire un cours de morale. Trop tard. Je m'endormirai avec la honte de mon idiotie. Demain, je dois voir Picasso. C'est surtout à cela qu'il me faut penser. Pour réaliser d'une façon valable cette solitude dont je parlais, il me faut non seulement faire abstraction de mes amis, mais de moi tout d'abord, et ne pas me poser sur un socle. D'une manière générale, il faudrait que je m'astreigne à ne déchirer aucune page de ce cahier, ni à en raturer, si humiliant qu'il soit pour moi de me relire. Tout se trouverait faussé si je m'abandonnais à un pareil trucage. Il faudrait aussi que j'évite d'ajouter des phrases destinées uniquement à corriger la mauvaise impression que me fait à moi-même telle ou telle partie. Livre à acheter. La correspondance de Rimbaud, préfacé par Gilbert Lecomte. Dîner avec les Baudin. Parler des films sonores, des dernières inventions, etc. Lu dans les Nouvelles littéraires un article sans intérêt aucun sur l'alchimie ancienne et moderne, ainsi qu'une interview de Lord Douglas au sujet d'Oscar Wilde. Cette recherche d'une technique ne doit pas devenir un simple journal de ma vie, ou plutôt ce que j'aurais envie d'appeler journal de la recherche d'une technique. Il ne faut pas faire un but de ce qui ne saurait être qu'un moyen. Toute l'horreur de l'art pour l'art consiste précisément en cela. 11 mai. Je pense à une autre phrase qu'entre autres choses, j'ai dit à Bianca Frankel une nuit que j'étais follement saoul. Je ne puis aimer personne, alors je m'aime moi-même. Je crois que je songeais alors à la théorie occulte sur les rapports de l'homme et de la femme. La femme, formée d'une côte d'Adam, n'est autre que l'affectivité même de l'homme, sa sensibilité, séparée de lui et à lui opposée. Quand il s'aime donc lui-même. Damia, que j'ai entendu plusieurs fois pendant la guerre, puis une fois avant de partir à Quiberon, une autre fois en revenant. Vu Picasso parler du burlesque et de son équivalence avec le merveilleux. Actuellement, il n'y a plus moyen de faire passer une chose pour laide ou répugnante. La merde même est jolie. Déjeuner chez Frankel, lu un article de lui sur la mort noire, c'est-à-dire la peste. Le problème littéraire est beaucoup plus compliqué que le problème pictural. En effet, la littérature met en œuvre le langage qui sert quotidiennement à des fins utilitaires. Que pourrait faire un peintre s'il devait, par exemple, pour commander son repas de tous les jours, employer non sa langue, mais ses pinceaux ? C'est pourtant une chose équivalente qui arrive journellement à celui qui écrit. Toutefois, c'est peut-être une erreur de poser le problème de cette façon. Le langage est un simple instrument. Il n'est nullement matière première pour la littérature. La vraie matière première, picturale comme littéraire, c'est le monde de nos perceptions et de nos sentiments. Et seul importe cette matière première, non l'instrument duquel nous nous servons. Il suffit par conséquent d'éviter tout verbiage et de veiller à ce que la réalité soit vraiment mise en jeu lorsque nous écrivons. Que les phrases ne soient pas des simples phrases avec sujet, verbe, complément, mais soient chargées d'un événement qui, naturel ou surnaturel, se passe véritablement. Mais si l'on adopte cette solution, un problème continue tout de même à se poser. L'importance qu'il convient d'accorder au rythme et à la valeur sonore. Ce qui réintroduit la question formelle. Picasso me montre des dessins en vue d'une sculpture qu'il est en train de faire et qui représente une femme assise. Il y a un dessin d'ensemble et d'autres représentant par exemple un membre pris séparément. Le dessin est extrêmement fini et soigné, avec un bombé très net, fait avec des hachures, tout ce qu'il y a de plus académique. Seulement le membre n'a presque plus rien d'humain. Il ressemble plutôt à un instrument en os de l'époque néolithique, façonné d'une manière très précise, dans un but mystérieux. Toutes les pièces sont réunies pour le procès de l'ordre des choses dans lequel nous vivons. Ce qui importe, ce n'est pas tant d'approfondir telle ou telle discipline spéciale que de confronter ces matériaux divers les uns avec les autres, de poser les limites de leur terrain d'entente et de montrer qu'ils concourent tous à saper les bases de l'état des choses actuelles.
Je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti.
C'était Page arrachée au journal de Michel Léris, choisie et présentée par Jean Jamon, lue par Jean-Louis Trintignant et enregistrée au Festival d'Avignon en 1992 par Monique Burguière et François Connac, dans une réalisation de Claude Guerre. Remise en onde, Sébastien Labarre et Claude Guerre, assistant à la réalisation, Félix Levaché, avec la voix de Julie Pouillon.
Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie.
Le journal de Michel Léris est publié aux éditions Gallimard.